VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Michel Joseph, au sommaire en ce lundi 4 mai 2015.
C'est aujourd'hui que doit s'ouvrir à Bangui le forum de réconciliation nationale.
Tout est sympa pour ce forum que les Centrafricains attendaient depuis longtemps. Les téléphones portables ne cessent de recevoir les messages appelant les Centrafricains à participer entièrement à ce dialogue, dialogue qui mènera à la réconciliation.
Notre correspondant à Bangui, Thierry Mbomba, nous en dira plus.
Des soldats maliens et des assaillants ont été tués dans les derniers affrontements dans le nord du Mali.
Malgré les appels des autorités maliennes, ceux de la communauté internationale, les localités maliennes continuent d'être attaquées par des rebelles. La dernière est Diri, où ils ont enlevé un agent de la police et emporté deux pick-up.
Tous les détails depuis Bamako avec Kassim Traoré.
Poursuite de la visite au Kenya du secrétaire d'État américain John Kerry.
Et Human Rights Watch accuse la coalition menée par l'Arabie Saoudite d'avoir utilisé des munitions à fragmentation lors de raids aériens au Yémen. Mais tout d'abord, le journal. C'est aujourd'hui que doit s'ouvrir à Bangui le forum de réconciliation nationale devant aider la République centrafricaine à sortir de sa longue crise. Tous les participants sont sur place, à l'exception des anciens présidents François Bozizé et Michel Djotodia, affirme notre correspondant à Bangui, Thierry Mbomba.
Tout est sympa pour ce forum que les Centrafricains attendaient depuis longtemps. Les téléphones portables ne cessent de recevoir les messages appelant les Centrafricains à participer entièrement à ce dialogue, dialogue qui mènera à la réconciliation. Toutefois, les Centrafricains regrettent l'absence des deux anciens présidents, François Bozizé et Michel Djotodia, qui, selon eux, devait vraiment dire aux Centrafricains comment on en est arrivé à ce niveau.
Quel est le sentiment du côté des milices anti-Balaka et des ex-Séléka?
Avant ce dialogue, nous avons évolué de revendication en revendication. La Séléka qui exigeait plus de place qu'on ne lui a donné, tandis que les anti-Balaka exigeaient quant à eux la libération de leurs pères qui sont détenus en ce moment à la maison d'arrêt centrale de Ngaragba. Mais toutefois, on va quand même aller à ce dialogue. Et les Centrafricains espèrent que pendant ce dialogue, ils trouveront enfin la clé à leurs problèmes.
Notre correspondant à Bangui, Thierry Mbomba, joint par Timothée Donongmaï.
Près de 300 femmes et enfants reçoivent une aide dans un camp au Nigeria après avoir été secourus dans une forêt dans le nord-est du pays où ils étaient retenus en captivité par la milice Boko Haram. Selon les autorités, nombre d'enfants souffrent de malnutrition grave et une vingtaine ont des blessures et des membres cassés.
Boko Haram utilise les femmes comme esclaves sexuels ou encore comme boucliers humains. Selon les autorités, il ne semble pas que les jeunes femmes secourues soient originaires de Chibok, où 200 lycéennes ont été enlevées en 2014.
Le président Togolais Faure Gnassingbé, officiellement réélu, il prête serment ce lundi. Les résultats définitifs ont été proclamés par la Cour constitutionnelle dimanche. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, succédant à son père qui avait dirigé le Togo pendant 38 ans. Lomé est calme, signale notre correspondante Kai Lawson.
Ce lundi 4 mai, le président élu Faure Gnassingbé prête serment devant la Cour constitutionnelle pour le tome 3 de son odyssée présidentielle. La Cour a confirmé hier sa victoire à 58,67% des suffrages exprimés devant son challenger Jean-Pierre Fabre, qui se voit crédité de 35,19% des voix. Le travail de la Cour constitutionnelle n'a pas été délicat, car l'institution n'a reçu aucun recours de la part des candidats. L'audience de la Cour constitutionnelle tenue ce 3 mai ne nous engage aucunement, a déclaré Pascal Adoko, porte-parole de Jean-Pierre Fabre. Faure Gnassingbé rempile ainsi pour un troisième mandat, alors que Jean-Pierre Fabre dit avoir gagné l'élection avec 52,20% des voix, compilées dans 26 commissions électorales locales indépendantes CELI sur les 42 que compte le Togo. C'est pour la première fois sous la présidence de Faure Gnassingbé que les résultats d'une élection présidentielle n'ont pas suscité de contestation dans les rues dans les heures qui ont suivi sa proclamation. En lieu et place, ce sont les militants et sympathisants du parti au pouvoir qui, à travers caravane, ont célébré la victoire de leur président. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Des milliers de personnes, en majorité des Falachas, des Juifs originaires d'Éthiopie, ont manifesté dimanche à Tel Aviv contre le racisme et pour dénoncer des actes de brutalité de la police. Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme un racisme anti-noir de la part des forces de l'ordre, après un incident à Jérusalem entre des policiers et un soldat d'origine éthiopienne. Une vidéo de l'incident montre des policiers en train d'agresser le soldat. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévu de rencontrer ce lundi des représentants de la communauté éthiopienne en Israël.
10 migrants se sont noyés dans la Méditerranée ces derniers jours, mais plus de 4800 autres ont été sauvés ce week-end, ont indiqué les gardes-côtes italiens qui disent avoir intercepté au moins 16 embarcations dimanche.
Les trafiquants profitent d'une météo favorable, affirment les autorités italiennes, qui s'attendent à ce que quelques 200 000 migrants traversent la Méditerranée cette année, soit 30 000 de plus qu'en 2014.
En visite au Kenya, le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, prévoit de rencontrer ce lundi divers hauts responsables, dont le président Uhuru Kenyatta. Ce sera pour discuter notamment de questions de sécurité et de développement économique. Il doit également se rendre dans le parc dit du 7 août, site de l'attentat à la bombe contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi en 1998, qui avait coûté la vie à plus de 200 personnes.
La visite de M. Kerry intervient avant celle du président Barack Obama sur la terre natale de son père. M. Kerry doit rester jusqu'à mardi au Kenya et il se rendra ensuite à Djibouti.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La coalition menée par l'Arabie Saoudite aurait utilisé des munitions à fragmentation fournies par les États-Unis lors de raids aériens contre les rebelles chiites au Yémen. C'est ce que dénonce l'ONG Human Rights Watch, qui affirme disposer d'informations crédibles en ce sens. Or, ces munitions sont interdites par un traité international.
Des photos, une vidéo et d'autres éléments crédibles depuis la mi-avril tendent à indiquer que des munitions en grappe ont été utilisées ces dernières semaines dans des frappes de la coalition sur le gouvernorat de Saada, bastion des rebelles houthis dans le nord du Yémen, précise Human Rights Watch.
La maire de Baltimore, ici aux États-Unis, dans l'État du Maryland, Stephanie Rawlins Blake, a annoncé dimanche la levée immédiate du couvre-feu dans sa ville. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Madame Rawlins Blake a expliqué qu'elle ne tenait pas à ce que la mesure reste en place plus longtemps que nécessaire. Ma principale priorité dans l'imposition du couvre-feu était de préserver la paix, la sécurité, la santé et le bien-être des habitants de Baltimore, a-t-elle déclaré. La mesure avait été instaurée suite aux violentes manifestations en rapport avec la mort le mois dernier de Freddie Gray, jeune noir de 25 ans, décédé des suites de blessures subies durant son interpellation par la police. Le couvre-feu a été critiqué par l'Association américaine de défense des libertés civiles, de même que par les hommes d'affaires, les propriétaires de restaurants en particulier. Peu après l'annonce de Mme Rawlins Blake hier, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a dit de son côté que certains des 4000 membres de la garde nationale et policiers déployés à Baltimore ont amorcé leur retrait. Toutefois, l'état d'urgence restera en place jusqu'au retrait total de ces forces, a-t-il précisé. Pour la première fois, les centres commerciaux et magasins pillés durant les violences de lundi dernier ont rouvert dimanche. Pour leur part, les protestataires ont profité du beau temps pour manifester pacifiquement devant la mairie de Baltimore et aussi pour certains prier.
Au Népal, 4 autres survivants, y compris un homme âgé de 101 ans, ont été retirés des décombres 8 jours après le tremblement de terre qui a dévasté le pays. Toutefois, l'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise et le bilan se chiffre maintenant à plus de 7200 morts. Il pourrait augmenter, ont fait savoir les autorités. Des milliers de personnes, dont un millier environ de touristes européens, sont toujours portés disparus au Népal à la suite du séisme.
Par ailleurs, un détachement américain est arrivé au Népal pour aider à gérer les secours. Il comprend des avions militaires, des équipements lourds et des contrôleurs de la circulation aérienne.
États-Unis, une fusillade a été rapportée dimanche soir dans un centre où se tenait un concours de caricature du prophète Mahomet dans une banlieue de Dallas au Texas. Deux hommes ont ouvert le feu et ont été abattus, rapportent les médias locaux. L'événement était organisé à Garland, près de Dallas. On enchaîne avec la Minute Éco en compagnie de Nathalie Barge.
Le commerce électronique est en nette progression sur le continent africain et pourrait, dans une dizaine d'années, constituer 10% des ventes au détail des plus grandes économies africaines, selon l'étude Global e-commerce Logistics 2015 citée par APA. Grâce à ce type de commerce, les consommateurs ont désormais accès à toutes sortes de produits qu'ils peuvent acheter d'un simple clic. Ils sont par ailleurs de plus en plus nombreux à s'attendre à une livraison immédiate, ce qui accroît l'importance de la logistique, selon le document qui souligne que cela encourage justement les fournisseurs de logistique à rechercher de nouvelles initiatives pour améliorer les services de livraison et offrir des avantages compétitifs. Les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe ont adopté une stratégie régionale de développement industriel, a indiqué PANA. Réunis la semaine dernière à Harare au Zimbabwe, ils ont conclu un plan pour exploiter les ressources de la région pour un développement durable, selon un communiqué du ministère tanzanien de la coopération internationale. Selon la revue en ligne Financial Africa, le Kenya et le Qatar ont signé un accord de coopération prévoyant un soutien technique de la part de la monarchie du Golfe pour le lancement d'un centre financier international à Nairobi, inspiré du Doha International Financial Center.
On enchaîne avec les sports. Présentation Élise et Sonia, bonjour.
Bonjour Camille.
Boxe avec le championnat d'Afrique et Alexis Kabore conserve sa ceinture WBC de la catégorie Supercoq.
Le Burkinabé a dominé le Béninois Fatiou Fassinou au palais des sports de Ouagadougou au bout de 12 rounds de 3 minutes chacun. Alexis Kabore, dit Yo-Yo, vainqueur donc au point, porte à 25 ses victoires, dont 6 par KO.
Football à présent avec les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.
Et une grande première pour les Égyptiens de Soumha qui trouveront donc la phase de poule grâce à leur victoire de 2-0 face à l'AC Leopards de Dolisi. Qualification également du tenant du titre, l'Entente de Sétif, qui a pris part les tirs au but pour écarter les Marocains de Raja de Casablanca. Ça passe aussi pour le tout-puissant Mazembe, vainqueur 2-1 des Maliens du stade, tenu en échec à domicile à l'aller. USM Alger et Al-Hilal du Soudan seront bien présents à cette phase finale après avoir écarté respectivement la AS Kaloun et Sanga Balende.
Coup dur par contre pour le national du Caire.
Et c'est une surprise Camille, le club le plus titré de cette compétition est tombé après la séance des tirs au but 2-4 face aux Marocains de Maghreb de Tétouan, tout comme l'Espérant de Tunis. Malgré leur victoire de 2-1 face aux Soudanais d'Al Merrikh, les Sang et Or n'ont pas comblé leur retard du match aller. L'autre club tunisien, le club sportif sfaxien, est aussi éliminé par les Algériens d'El Ulma au tir au but 6-7. Un but partout sur l'ensemble des deux matchs. Et puis Camille, un mot sur la Ligue des champions de football de la CONCACAF pour dire que c'est le club América qui remporte cette édition de 2015. Le club mexicain est allé gagner sur le terrain des Canadiens de Montréal 4-2 lors de la finale retour. À l'aller, les deux équipes ont fait jeu égal, un but partout.
En championnat nord-américain de basketball, la NBA, deux matchs hier soir. Les Wizards de Washington ont battu les Hawks d'Atlanta 104-98. Et puis les Golden State Warriors ont expédié les Grizzlies de Memphis sur le score de 101-86. On signale par ailleurs que selon les médias américains, le meneur de jeu des Warriors de Golden State, Stephen Curry, a été désigné joueur par excellence de la NBA. L'annonce officielle est prévue ce lundi. Curry recevra le prix sur le terrain avant le deuxième match de la série demi-finale de l'Association Ouest entre les Warriors et les Grizzlies de Memphis, mardi. Curry a aidé les Warriors à terminer la saison au premier rang dans l'Ouest et au classement général du circuit grâce à 67 victoires, un record d'équipe.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidi avec vous pour présenter les dossiers du jour. Au Mali, eh bien, une quinzaine de soldats et de nombreux assaillants ont été tués dans des affrontements dans le nord du pays. Cela a suite à des attaques dans différentes localités. Les autorités maliennes, les populations et la communauté internationale appellent au calme. Mais voilà, dimanche, les combats ont continué dans le cercle de Diré entre les militaires maliens et des groupes rebelles. Le point avec Kassim Traoré.
Tout a commencé le lundi 27 avril dernier à Menaka, quand les éléments de la plateforme ont chassé les hommes du MLLA qui contrôlaient cette ville depuis mai 2014. Cela suite aux événements de Kidal. Malgré la prise de la ville par les éléments de la plateforme, les combats se poursuivaient. Baja Ag Amatou, député de Menaka.
Les opérations sont là-bas. Il est vrai qu'il y a des petits accrochages, des affrontements. Et ce qui est sûr, c'est que les éléments de la plateforme sont à Menaka. Les drapeaux du Mali sont déjà montés partout. Menaka est sous la protection des éléments de la plateforme.
Au cours de leur meeting au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako, les leaders de la plateforme de la société civile malienne ont lancé des appels aux membres de la CMA. Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali.
Nos frères du MNLA, nos frères du Haut Conseil de l'Azawa, nos frères du mouvement arabe de l'Azawa. Assez, assez. Le peuple malien a assez souffert. Il y a eu assez de misère. Nos frères et parents qui sont en train de croupir en Mauritanie, au Burkina, en Algérie et ailleurs. Je crois qu'il faut avoir pitié de nos enfants qui sont dans cette situation de misère pour enfin revenir à la raison.
Les travailleurs du Mali ont placé la fête du 1er mai sous le signe de la paix et de la réconciliation. C'est pourquoi l'UNTM propose la tenue très rapide d'une grande concertation nationale. Yacouba Katilé, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali.
Nous nous battons pour la paix, nous battons pour la sécurité. Au moment venu, ce qui a lieu de dire par rapport à des correctifs à apporter sur certains aspects. Nous allons faire venir vraiment notre apport pour aller au travail. Il faut qu'il y ait la paix. Et pour demander quelque chose à l'employeur, il faut qu'il y ait la paix. Et s'il n'y a pas de paix, on oublie tout ça. Donc nous voulons qu'il y ait la paix et cette paix conditionnée vraiment à la cessation des hostilités.
L'ancien premier ministre du Mali pense que c'est un groupe d'individus armés qui est manipulé par certaines puissances internationales. D'où son appel à l'union sacrée autour du Mali. Mohamed Hamed Agamani.
C'est l'union sacrée. Je dis bien l'union sacrée. Des patriotes maliens. Des vrais, pas des gens qui ont leurs pieds ici, ils ont leurs pieds ailleurs. Pas des gens qui sont ici et qui bombardent le Mali demain. Ça suffit. Il n'y a pas de poèmes, il n'y a pas de bambara, il n'y a pas de peul, il y a le citoyen malien.
En tout cas, malgré les appels des autorités maliennes, ceux de la communauté internationale, les localités maliennes continuent d'être attaquées par des rebelles. La dernière est Diré, où ils ont enlevé un agent de la police et emporté deux pick-up. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Camille Grodidi avec vous. C'est dans un contexte morose que les journalistes burundais ont observé la Journée internationale de la liberté de la presse dimanche, compte tenu des tensions suscitées dans le pays par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un autre mandat. Timothée Donogmaï a joint à Bujumbura Antoine Kabouaré du groupe de presse indépendant Iwaku.
Cette journée a été célébrée dans un contexte, je dirais, un peu morose. Vous savez que la radio publique africaine a été fermée, des journalistes se sont harcelés. Les radios Isanganiro et Bonesha ne peuvent plus émettre à l'intérieur du pays. Le groupe de presse Iwaku n'a plus de téléphone. On nous a coupé les lignes de téléphone, les lignes fixes. La maison de la presse est fermée. Les professionnels des médias indépendants se sont retrouvés dans les enceintes du groupe Iwaku, où on avait dressé une tente et mis quelques chaises pour nous retrouver entre nous avec quelques invités. Il n'y avait personne du gouvernement, il y avait quelques diplomates étrangers, beaucoup de journalistes.
Qu'est-ce que les journalistes se sont dit à cette occasion?
Bon, les journalistes ont regretté ce qui se passe, d'autant plus que les médias burundais ont fait vraiment preuve de beaucoup de professionnalisme, de beaucoup d'indépendance. Ce sont des médias salués par la communauté nationale et internationale qui ne méritaient pas le traitement qui leur est réservé aujourd'hui. Ça, c'est un regret unanimement partagé. Mais d'un autre côté, ils se sont dit que, voilà, malgré tout, ils restaient debout, solidaires, unis. La preuve, c'est cette retrouvaille dans les enceintes dans notre média. Mais surtout, les médias indépendants n'ont pas versé dans le radicalisme que l'on entend du côté de certains médias qui, eux, ne sont pas inquiétés. Donc, je dirais que c'était un sentiment de tristesse, mais de joie et de fierté. Un sentiment de joie pour tout ce que nous endurons et la résistance que l'on voit. Mais évidemment, la tristesse après ce qui est arrivé à nos confrères des médias cités.
Comment ces journalistes entendent-ils maintenir le cap lorsque eux-mêmes sont pris à partie dans la situation au Burundi?
Bon, comme l'a dit une des voix respectées des médias burundais, Innocent Mohosi, le patron de la radio-télévision Renaissance, c'est le respect des règles du métier, de l'éthique, de la déontologie qui sont notre seul bouclier. Nous allons rester professionnels, nous allons rester indépendants, nous allons continuer à tendre nos micros, à ouvrir nos colonnes à toutes les voix. Et c'est le seul moyen de continuer à travailler en espérant que les voies de la raison vont finalement reprendre le dessus.
Antoine Kabouaré du groupe de presse indépendant Iwaku, il était joint à Bujumbura.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au micro, Camille Grosdidier, le calme est progressivement revenu à Tel Aviv, en Israël, après une violente manifestation de Falasha, des Juifs originaires d'Éthiopie. Elle a été réprimée dimanche soir par la police. Le point avec Henri Francisque.
Les manifestants dénonçaient ce qu'ils considèrent comme un racisme anti-noir de la part des forces de l'ordre. Après la diffusion d'une vidéo montrant des policiers bousculant, puis frappant à coups de poing un soldat d'origine éthiopienne, dénommé Damas Pakada. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a lancé un appel au calme, doit rencontrer dans la journée le soldat et des représentants de la communauté juive d'origine éthiopienne. Toutes les revendications seront étudiées, mais la violence et de tels troubles n'ont pas leur place, a-t-il dit dans un communiqué. Les policiers israéliens ont chargé à cheval et fait usage de grenades lacrymogènes dimanche soir, tandis qu'ils essuyaient des jets de pierres et de bouteilles. Selon Reuters, les autorités ont fait état d'une cinquantaine de policiers et de 12 manifestants blessés, ainsi que près de 43 interpellations. Les Falachas, qui sont environ 135 000 sur 8 millions d'Israéliens, se plaignent depuis longtemps d'être victimes de discrimination et de racisme. Jeudi dernier, une première manifestation survenue suite à la diffusion de la vidéo montrant les policiers brutalisant l'officier israélien d'origine éthiopienne avait déjà dégénéré. La police a eu recours à des canons à eau pour empêcher les manifestants de s'approcher de la résidence du Premier ministre. Il y a eu une dizaine de blessés. Les autorités ont promis des sanctions contre les agresseurs de Damas Pakada. Deux policiers ont été suspendus. Rappelons que des dizaines de milliers de Juifs éthiopiens ont été amenés en Israël dans les années 1980 et 1990 grâce à des ponts aériens.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, les résultats des législatives béninoises ont été proclamés dimanche par les 7 sages de la Cour constitutionnelle qui ont travaillé d'arrache-pied pour examiner en moins d'une semaine tous les documents transmis par la Commission électorale nationale approfondie, la CENA. Leur constat avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Les sept sages de la Cour constitutionnelle ont proclamé ce dimanche 3 mai 2015 les résultats des législatives qui se sont déroulées une semaine plus tôt sur toute l'étendue du territoire béninois. Mais avant, la Cour constitutionnelle, après examen des différents documents électoraux, a relevé plusieurs irrégularités sur lesquelles revient ici le président Théodore Holo.
Le défaut de la feuille de dépouillement est où du procès verbal du déroulement du scrutin? Le décompte fantaisie de voix sur la feuille de dépouillement et ou du procès verbal de déroulement du scrutin. Le défaut de décompte des voix. Le défaut de décompte des voix par pictogramme. Le défaut de remplissage de la feuille de dépouillement. L'absence de mention des émargements et des dérogations sur la feuille de dépouillement. L'absence de mention sur le procès verbal du déroulement du scrutin, du nombre de suffrages exprimés et de bulletins nuls, des surcharges et des ratures sur la feuille de dépouillement, le défaut d'annexion de bulletins déclarés nuls, le défaut de signature de deux au moins des membres de pot de vote, le dépassement du nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits.
Mais aussi nombreuses soient-elles, ces irrégularités n'entament en rien la validité du scrutin, a certifié le président de la Cour constitutionnelle qui désormais
proclame élu député à l'Assemblée nationale les candidats des partis ou alliances de partis dont les noms suivent. Alliance ABT, 2 sièges. Parti Réseau Ataou, 1 siège. Alliance Éclaireur, 2 sièges. FCB, 33 sièges. PRD, 10 sièges. AMD, 5 sièges. Alliance Soleil, 4 sièges. Alliance FDU, 4 sièges. 1, 13 sièges. Alliance RBRP, 7 sièges.
Ces résultats ne préjugent pas des recours et autres contentieux dont la Cour connaîtra ultérieurement. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du Monde Aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Au micro, Camille Grosdidier. Retrouvez-nous sur Facebook et bien sûr notre site internet voafrique.com. Et à tous, une excellente journée. We'll be right back.
cœur de l'info.